Radio Free Gaza.
Radio.
Radio Free Gaza.
Free. Gaza. Un billet d'information intercommunautaire. Bellux.
Tous les jours de la semaine, de 17h à 17h30. Et le week-end, de 15h30 à 16h.
En direct sur Radio Air Libre, 87.7 FM.
Rediffusé sur Radio Panique, 105.4 FM, à Bruxelles.
Une émission qui fait le lien entre la flottille internationale pour Gaza et vous.
Retrouvez les podcasts sur le www.radiofreegaza.net.
Bonjour tout le monde. Bonjour à Radio Free Gaza. Nous sommes de retour comme tous les jours et ce pendant quelques semaines. Et on a une bonne nouvelle. Cet après-midi, la flottille est vraiment, vraiment partie de Barcelone. Vous vous souvenez peut-être que dimanche, c'était le départ officiel. Mais puisqu'il y avait une tempête, ils ont dû attendre 2 jours. Et donc cet après-midi, ils sont bel et bien partis. Vous pouvez aussi les suivre en fait sur le site de Forensic Architecture. Donc c'est flotilla.forensic-architecture.org. Et là vous pouvez suivre le bateau. Vous pouvez même cliquer sur leur nom et alors vous voyez où se trouve ce bateau. Voilà. Aujourd'hui nous avons Astrid au studio avec nous. Bonjour Astrid.
Bonjour.
Et bonjour Julie aux manettes. Voilà. Astrid, est-ce que tu peux te présenter en 2 phrases?
Oui, donc je suis Astrid Jamar, je suis chercheuse affiliée à l'Université d'Anvers et ma recherche porte sur les approches féministes décoloniales liées à la paix et aux enjeux à la militarisation. Donc mon point d'entrée, c'est la paix, mais comme on va élaborer dans le reste de la conversation, il y a énormément de liens à reclarifier autour de comment certaines visions pacifiques sont imbriquées à des perspectives militaires, y compris dans la société de manière générale et dans le monde universitaire.
Ok, ok. Maintenant, on va parler de Gaza aussi un peu, effectivement. Mm-hmm. Donc, hier, on a eu Hans Lammerand qui nous a parlé d'un nouveau décret qui va passer par le Parlement flamand, qui va assouplir, en fait, les contrôles sur les licences pour les exportations d'armes. Il paraît que dans le Parlement wallon, il y a un texte qui va arriver aussi, qui va faire exactement la même chose. Et ce sont en fait des effets qu'on voit un peu partout dans notre société, d'une certaine militarisation. Tout d'un coup, il faut de nouveau aller en guerre, il faut acheter des armes, il faut avoir une armée plus importante. Et souvent, la défense arrive aussi dans les écoles.
Oui, en effet. Donc, je pense que ce qui est important, je pense que dans les jours à venir, on va avoir d'autres experts et chercheurs et activistes sur les questions militaires qui abordent des points d'entrée beaucoup plus communs et beaucoup déjà traités par les médias. Et donc, en effet, depuis plus ou moins une année, il y a un push dans le monde universitaire pour encourager plus de chercheurs à avoir soit de la recherche qui a une implication militaire directe ou le double usage, donc de la recherche pour le bien commun, mais qui pourrait éventuellement aussi bénéficier au secteur militaire. Donc quand on parle du secteur militarisé, on parle bien de technologies et d'outils qui sont destinés à tuer d'autres personnes. Et donc, c'est des discours qui sont souvent rendus un peu flous autour du discours de la sécurité, la sécurisation et de la défense. Et il y a toutes des différentes trajectoires de ces différents twists discursifs où on change des mots pour altérer l'objectif de la technologie qui est développée. Et donc, le problème de la militarisation... Donc, en tant que féministe, en tout cas, les chercheuses féministes critiquent des aspects militaires, mettent en avant depuis plusieurs décennies qu'il faut faire une différence entre la politique militaire et la politique martiale, dans le sens où la société est déjà imbibée de notions militarisées de manière claire mais implicite et parfois de manière très obscure. Donc, un des exemples les plus implicites, c'est en Belgique... On va à la boulangerie, on peut demander un pistolet. On va à la friterie, on peut demander une mitraillette sauce samouraï. On va au supermarché, on peut acheter de la moutarde en pot de grenade. Et dans les côtés plus implicites, c'est par exemple la normalisation de certains mots, comme par exemple le bikini. Le bikini qui est pour beaucoup de femmes un accessoire de vacances pour aller sur des plages paradisiaques. Or, le mot bikini est en fait un terme choisi par celui qui a dessiné cet accessoire de plage. La semaine où les essais nucléaires sur les atolls Bikini dans les îles Pacifiques. On parle bien de tests d'armes nucléaires sur des îles où on a déplacé les populations autochtones avec une dévastation totale de l'environnement. Et la personne qui a inventé le bikini s'est dit bah, « c'est une allusion assez originale de parler de l'explosion d'un accessoire de bain avec quelque chose qui explose et qui est révolutionnaire et qui, à l'époque, le discours politique des années de la post-deuxième guerre mondiale, c'est que l'arme nucléaire, soi-disant, a des bienfaits pacifiques où les gouvernements, ou en tout cas les institutions militaires, peuvent se protéger de l'attaque de l'autre par dissuasion. Et donc, cette dissuasion, la défense, permettrait de ne pas avoir d'attaque militaire. Or, on sait bien aujourd'hui, plusieurs décennies plus tard, qu'il y a des dévastations graves liées à la bombe atomique. Les tests, d'ailleurs, sur les atolls Bikini étaient après les attaques d'Hiroshima et Nagasaki, donc ce n'était pas un mystère non plus. Mais donc, voilà, il y a énormément d'exemples possibles, mais c'est le premier pour montrer qu'en fait, la normalisation, la militarisation, elle précède le gouvernement Arizona, elle précède la politique de Trump, et elle est imbibée de manière très explicite et implicite, de manière non nommée. Donc ça, c'est le premier volet, je pense.
Ok. Oui. Et donc, ce qui se passe maintenant avec la militarisation, c'est juste un moment où c'est devenu plus visible, c'est ça?
Ou non, ou en fait, c'est pas juste plus visible, c'est... on était en dernière... on augmente la vitesse de... ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a une accélération de la militarisation. Mais c'est pas qu'on parle de zéro... À plus 20, c'est qu'on a un nouveau discours qui dit qu'on n'est pas assez militarisé et qu'on doit être plus militarisé et qui justifie un discours de destruction. Dans le contexte aujourd'hui, on parle bien de génocide à Gaza et de nettoyage ethnique dans les autres territoires occupés de la Palestine, de crimes de guerre dans d'autres parties de l'Asie de l'Ouest et de crimes de guerre dans d'autres parties du monde. À travers des incursions militaires. Donc, on est bien dans une accélération et un déploiement de stratégies militaires beaucoup plus fort qu'il y a 5 ans. Mais cette accélération militaire, elle est possible parce qu'il y a déjà une normalisation militarisée dans la société.
Ok, je vois. En fait, si on parle par exemple d'Israël, on peut dire qu'on parle d'un pays ou d'une société extrêmement militarisée.
Oui. Mais donc là, il y a énormément de parallèles à faire. Donc déjà, où il y a énormément de points à traiter et je suis persuadée que d'autres... Donc je pense qu'il y aura des autres experts qui étaient notamment impliqués dans le cadre du procès Elbit qui va venir parler. Et je laisse ce sujet pour être développé par quelqu'un qui connaît beaucoup mieux le dossier. Mais de manière générale, donc, il y a énormément d'imbrications sur comment est-ce que la nationalité israélienne est associée au service militaire. Comment est-ce que la société israélienne est déjà extrêmement militarisée? Comment est-ce que la recherche militaire est... donc, il y a énormément d'universités israéliennes qui donnent des avantages à leurs étudiants qui servent dans la force de défense, je mets des guillemets, israélienne. Il y a certains chercheurs qui démontrent d'ailleurs que la recherche militaire des entreprises de l'industrie militarisée israélienne est développée par l'industrie, donc des coalitions entre l'industrie et les universités en Israël, testées sur le peuple palestinien, qui est après revendu à d'autres services de sécurité publics et privés dans le monde entier. Donc la police belge, l'armée belge, a acheté, je pense qu'il y a un site qu'on peut partager après sur qui liste les partenariats commerciaux et les achats publics, donc avec de l'argent public belge, d'armement israélien qui est testé sur dans un laboratoire génocidaire et qui après est réutilisé sur les populations les plus marginalisées, ici, aux portes de l'Europe ou en Belgique.
Oui, donc ce n'est pas juste le fait qu'il y a des exportations d'armes. On achète aussi des exportations d'armes entre autres vers l'Israël. Mm-hmm. On achète aussi les armes en Israël.
Qui sont fabriquées à travers l'industrie et la recherche universitaire israélienne, oui.
Oui. Et qu'est-ce qui se passe avec la coopération entre les universités ici en Belgique?
Donc, c'est un sujet assez... donc, les universités, plusieurs universités recommencent leur encampement la semaine prochaine, justement, parce que donc...
À Gand.
À Gand et à Anvers, ouais, aussi.
À Anvers aussi, ok.
Ouais. Presque toutes les universités belges ont encore des collaborations avec des universités impliquées dans le génocide et qui soutiennent ouvertement le génocide. À travers différents types de collaborations et de partenariats de recherche universitaire, y compris, mais pas uniquement, à travers le partenariat d'Horizon de l'Union européenne. Ça fait plusieurs... Donc, bien avant le génocide, il y a déjà des demandes d'informations. Les universités flamandes ont mis en place des comités d'éthique pour évaluer les risques de violation des droits de l'homme et d'usage militaire de la recherche. Et énormément de ces dossiers ont été jugés de manière négative par ces comités éthiques, qui sont une obligation dans les institutions de recherche flamandes. Et malgré ces avis négatifs, les universités ont décidé de maintenir ces collaborations, et y compris à commencer de nouvelles collaborations avec ces institutions qui sont jugées problématiques par les communautés éthiques de nos universités. Donc, il y a pour l'instant, donc chaque université... par exemple, je pense qu'à Anvers, je ne me rappelle plus des chiffres exacts, mais par exemple, à Anvers, je pense qu'il y a plus ou moins encore 12 collaborations actives, 17 sur Gand, et je peux vérifier les chiffres et on peut mettre un lien avec... le rapport le plus à jour. Et donc, malgré des promesses des différents recteurs et des annonces publiques des différents recteurs à mettre fin à ces collaborations, où il y a... Les collaborations continuent et des nouvelles commencent, quoi.
Mmh. Et donc, il y aura deux camps, un à l'université de Gand et l'autre à l'université...
D'Anvers, qui commence jeudi prochain.
OK.
Et donc voilà, je pense que les différents groupes Instagram, les comptes Instagram ont des détails sur les différents, sur l'organisation. Donc je pense que là, on est fort au niveau de la logistique et les annonces sont déjà faites ou vont arriver dans les prochains jours sur les différentes activités ouvertes au public pour venir rencontrer ces espaces qui continuent de faire pression sur les universités pour sortir d'Horizon, pour faire le boycott académique envers l'Israël et soutenir nos chercheurs étudiants palestiniens ici en Belgique et à Gaza.
Ok. Et si on parle de militarisation en Belgique, dans l'éducation, il n'y a pas que les universités, il y a aussi des formations dans l'enseignement secondaire.
Ça, je ne sais pas. Moi, j'ai entendu cette semaine-ci que les autres écoles flamandes proposent aux étudiants de prendre des contrats militaires dans le secteur, dans l'armée pendant leurs études. Donc, ils ne sont pas obligés d'interrompre leurs études. Ils peuvent faire leurs études en toute école et rentrer dans l'armée en même temps. Et donc, il y a toute une... Et donc, je pense qu'il y a un détail important où... Je disais il y a cinq minutes qu'il y a qu'il y a déjà une normalisation de la militarisation qui préexiste, mais en même temps, malgré une normalisation, il y a énormément d'autres exemples. Hein. On peut prendre par exemple les jeux militarisés, la Barbie, le G.I. Joe, etc., qui sont des jouets pour enfants qui valorisent cet esprit militarisé. Mais en même temps, l'armée belge a dépensé 12 millions dans la campagne pour redorer l'image de l'armée et pour attirer 4000 jeunes à rentrer dans l'armée. Donc, je veux dire, 12 millions de campagnes publicitaires pour 4000 emplois, on pourrait couvrir beaucoup de salaires avec ces 12 000 euros plutôt que juste... Et donc, voilà, donc juste, il y a énormément de détails hein, pour montrer qu'il y a quand même un investissement public, des fonds publics, pour redonner une image et normaliser encore plus cette course à l'armement et cette course à renforcer la force militaire belge et européenne.
Oui. Ouais, maintenant, si on parle d'une campagne publicitaire, ça c'est clair, c'est quelque chose qu'on voit à la télévision, etc. Les autres exemples que tu as donnés, notamment sur les bikinis ou sur un pot de moutarde en forme de grenade, ça ne sont pas vraiment ce ne sont pas des campagnes publicitaires gérées par la défense, c'est une autre militarisation.
Oui, mais donc c'est intéressant de poser ça comme ça, parce que justement les féministes, c'est essentiellement des féministes américaines, comme par exemple Cynthia Enloe ou... c'est énormément de Cynthia, mais j'oublie les noms de famille, mais qui justement ont un débat autour des différents aliments où le packaging a des références militaires, où donc il y a des équipes de com dans des industries alimentaires qui se disent « Ah, ben, si on met une référence militaire sur ce paquet de pâtes ou sur ce paquet de céréales, il aura plus de chances d'être acheté par les mères au foyer » que si c'était quelque chose de différent. Et donc, en effet, il y a les pubs de com très visibles poussées par le gouvernement Arizona, mais déjà, bien avant Arizona, bien avant Trump, il y a une normalisation qui fait en sorte que ce discours de glissement, de militarisation, agression militaire, destruction... qui amène à la mort d'autres de personnes civiles et non civiles est possible parce que il y a déjà une normalisation de certains éléments militaires. Sans ces éléments, ces dispositifs dans la société, on serait ce serait moins facile de nous convaincre que la militarisation est quelque chose de bénéfique pour la société.
Oui. Et ça me fait penser aussi à autre chose, notamment le fait qu'on, parfois, dans les mouvements sociaux, on voit aussi des tendances à militariser certaines choses, surtout quand on parle d'action et tout ça. Parce que tout d'un coup, tout devient très sécuritaire, avec beaucoup de secrets, par exemple. Un autre exemple, par exemple, même dans la flottille, il y a des anciens militaires qui font des risk assessments. Parce que c'est considéré, si c'est ces gens-là qui le font, alors c'est sérieux.
Mais je pense que, je veux dire, je ne sais pas comment répondre. Je relisais un article d'un groupe de chercheurs français sur la question de la normalisation de la recherche militaire, de la recherche de la défense. Et quel est l'effet de la recherche sur la défense, sur les chercheurs qui travaillent sur la défense? Et un des éléments qui ressort systématiquement de ce débat entre cinq chercheurs sur les, qui font un peu un résumé de la recherche qui existe sur les gens qui font de la recherche, c'est qu'en fait, plus on fait de la recherche sur la défense, plus on normalise le fait qu'on assassine d'autres personnes. Et donc là, je m'éloigne un peu de, la question, de ta question, Hans, mais où on oublie quand on travaille, et moi également, j'ai travaillé très longtemps dans différents programmes d'ONG et d'université qui travaillent sur les enjeux de la paix et de la consolidation de la paix. Et c'est souvent lié à un comptage de nombre de morts. Et en fait, en comptant les morts, il y a tout cet enjeu de devoir comprendre l'étendue des dégâts, mais en même temps, il y a une déshumanisation dans le comptage. Et c'est aussi une déshumanisation qui est confrontée, et il y a des contre-narratifs qui ressortent, et on voit bien dans certains mouvements activistes où on lit, et ça a été fait dans plusieurs villes en Belgique et dans beaucoup de villes dans le monde, où on lit tous les noms des enfants qui ont été assassinés à Gaza, on lit, on fait des listes de noms avec des noms des victimes pour montrer qu'on parle bien d'individus qui sont des membres de famille et que ces pertes humaines, elles créent une grande douleur et un poids, alors que la recherche sur la sécurité et la défense se détache fortement en fait, de tous ces enjeux éthiques et du poids émotionnel lié aux opérations militaires.
Okay.
Qu'elles soient légales ou non légales. Hein. Donc, dans le cas israélien, il est bien clair qu'il y a, que et dans les agressions militaires israéliennes et américaines des dernières années ne respectent pas la Charte des Nations Unies, mais même dans le cas où elles respectent la Charte des Nations Unies, il y a énormément de pertes humaines et il y a énormément de douleurs créées à travers des opérations militaires qui est souvent négligée à travers ces différents secteurs. Mais qui a justement un des débats et un des points sur lesquels les féministes insistent énormément.
Ok. C'est presque la fin de l'émission. Mm-hmm. Donc, quelles sont les choses que tu veux encore dire qu'on ne les oublie pas?
Qu'on n'oublie pas. Mais je pense que c'est important donc de garder un esprit critique et de se dire que on peut aussi la démilitarisation, c'est aussi bien confronter les décisions politiques qui justifient de manière disproportionnée ce réarmement qui est énormément coûteux au niveau humain, économique, sociétal, culturel et pour tous les secteurs en Belgique qui se voient leurs fonds coupés pour pouvoir financer ces dépenses militaires. Mais en même temps, en plus de confronter les débats publics, c'est aussi avoir des... comprendre comment cette militarisation, elle impacte, comment est-ce que nous, on a aussi normalisé certains aspects. Et donc, avoir un débat, s'informer davantage sur ces questions et aussi discuter avec son entourage. Je pense que nombreux d'entre nous ont des neveux qui ont reçu la lettre pour rentrer dans l'armée. Et ça engendre des discussions que j'avais jamais eues il y a 5 ans dans ma famille. Mais pourquoi est-ce que mon neveu voudrait rentrer dans l'armée? Pourquoi est-ce que le neveu de mes collègues considérait rentrer dans l'armée aujourd'hui alors qu'il ne l'aurait pas considéré? Donc moi, j'ai dit clairement, mais est-ce que tu veux que ton fils aille tuer d'autres personnes? Et pouf, voilà, le débat était fini. Mais, ou le risque d'être tué lui-même aussi. Hein, et donc, ramener ces questions-là et remettre les mots, les effets concrets derrière cette militarisation aussi bien dans les espaces lointains qui sont considérés comme les espaces affectés par les conflits de manière générale, par les médias, par les politiques publiques, mais aussi comprendre qu'il y a énormément de militarisation contre On le voit bien dans les manifestations sur Bruxelles ou sur la gestion des personnes sans papiers, où il y a aussi une normalisation de la militarisation qui est extrêmement, qui rend des réponses complètement pas nécessaires. Et donc remettre en question ces choses-là autour de nous et pas uniquement loin, mais aussi comprendre comment c'est dynamique. Et donc si on revient sur les points de départ de la conversation, à comment le secteur industriel de la militarisation, le secteur de la recherche universitaire, et les différents services publics liés à la défense et à la sécurité normalisent une militarisation qui ont énormément de coûts et comment ce que nous aussi on soutient pour déconstruire et permettre de faire marche arrière sur cette course.
Ok, merci beaucoup.
Merci.
Merci Astrid.
Merci, merci.
Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Demain, à la même heure, donc à 17h, je ne sais pas encore ce qu'on va faire demain, mais ça, vous allez l'entendre. Au revoir.
Au revoir, merci.
Il y a un petit d'être ici, hein.